Etur Jesus Christus.
L'année 2025 décidera si la guerre déclenchée par le Kremlin sera remportée par la Russie ou l'Ukraine. Il faut rester fort, mais nous avons la force intérieure pour y arriver. Et déclaration du président ukrainien au Parlement européen à l'occasion des 1000 jours de la guerre en Ukraine ce mardi. Une force intérieure déjà visible parmi la population à pied d'œuvre pour reconstruire les villes détruites. Nous entendrons le témoignage du recteur du séminaire gréco-catholique de Lviv et reviendrons sur cette accélération du calendrier pour l'Ukraine. Quelle perspective de paix dans quelles conditions? L'état indien du Manipur en état de quasi-guerre civile. Les incidents armés se sont multipliés ces derniers jours entre communautés ethniques. 5000 paramilitaires y sont envoyés en renfort. Nous irons sur place. Avant de partir en France, où la colère agricole se fait à nouveau entendre, à l'approche de l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. 1000 jours d'invasion russe en Ukraine et Kiev jure ne jamais se soumettre à la Russie. Au Vatican, le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Parolin, espère un sursaut de responsabilité chez tout le monde, en particulier ceux qui peuvent arrêter le carnage en cours. 1000 jours de guerre en Ukraine dont le peuple continue donc de résister aux assauts russes. Déterminés dans ce combat, les Ukrainiens aspirent avant tout à vivre en paix sur leur territoire. Le recteur du séminaire gréco-catholique de Lviv, Don Igor Boyko, explique ainsi que les quartiers ravagés par les bombardements sont déjà en reconstruction pour pouvoir accueillir les familles ukrainiennes, dont certains reviennent après leur fuite du pays au début de la guerre.
Le peuple ukrainien est un peuple qui veut vivre en paix. Ce n'est pas un peuple qui envahit d'autres peuples. Ils essaient de tout faire pour pouvoir protéger leur terre, à mon avis à juste titre, pour pouvoir faire tout ce qui est possible pour que leurs enfants, leurs familles, puissent vivre en paix en Ukraine. Bien que les bombardements de la ville de Kharkiv, d'Izoum et d'autres villes se soient poursuivis, les gens ont commencé à revenir quelques mois après le début de la guerre. Le signe positif, à mon avis, qui est aussi un signe de paix, c'est que les villes sont reconstruites. Par exemple, la ville de Kharkiv, en particulier à Saltivka, un immense quartier qui a été bombardé, où de nombreuses maisons ont été détruites et où il y a eu beaucoup de morts.
Ce qui veut dire que le pays, nonostante che sono mille giorni di guerra,
cela signifie que le pays, malgré les 1000 jours de guerre, résiste et veut vivre en paix, vivre librement dans les maisons reconstruites, avec les familles, qui ont été forcées de partir dans différents pays pour trouver un refuge, mais dont certaines reviennent peu à peu.
Ma pian piano alcuni sono ritornati.
Propos recueillis par Luca Collodi, commentaire de l'archevêque latin de Lviv, président de la Conférence épiscopale latine d'Ukraine. 1000 jours qui sont pour lui la démonstration de la faiblesse de la structure de sécurité mondiale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient de s'exprimer par vidéo devant le Parlement européen. Il affirme à la représentation européenne que Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas de lui-même. 2025 décidera qui sera victorieux, lance-t-il, reconnaissant que l'Ukraine pourrait devoir attendre l'après-Poutine pour rétablir son intégrité. Les pays européens prêts à assumer l'aide à Kiev si Washington réduisait la sienne, affirme ce mardi la diplomatie polonaise. Premier pays d'accueil des réfugiés ukrainiens, c'est à Varsovie que se retrouvent aujourd'hui 6 ministres des Affaires étrangères européens pour discuter d'Ukraine et de sécurité européenne à l'ombre américaine. Une accélération du calendrier indéniable pour l'Ukraine dans ce contexte. Comment imaginer une cessation des hostilités qui ne soit pas en défaveur du pays, l'analyse de Bernard Chapdelaine, ancien diplomate notamment à Moscou, expert de l'Institut Montaigne.
Il y a certainement une accélération en vue de préparatifs de paix. Il y a à la fois la situation en Ukraine qui est quand même marquée par la lassitude de la population et aussi certainement de soldats. Il y a aussi les contextes intérieurs, notamment aux États-Unis, bien sûr, avec l'arrivée de la prochaine administration. Il y a aussi le contexte électoral en Allemagne, avec les élections prévues en février prochain. Donc il y a une combinaison de facteurs qui, effectivement, font que la perspective de paix se rapproche, étant entendu qu'on voit mal comment un règlement de paix pourrait intervenir. Il s'agira sans doute plutôt d'une cessation des hostilités, en fait. L'Ukraine aura du mal à obtenir des garanties de sécurité. La position constante de la Russie, c'est que l'Ukraine soit un État neutre. D'autre part, on voit mal aussi comment les États-Unis et l'Allemagne, en tout cas présentement, puisque le chancelier Scholz a aussi écarté l'idée d'une adhésion à l'OTAN. Donc, pour les Européens, ça serait vraiment un défi si ils pouvaient apporter à l'Ukraine des garanties de sécurité indépendamment des États-Unis et de l'OTAN.
Des propos recueillis par Marine Henriot. Pas de perspective ni d'horizon de paix au Proche-Orient, mais une réelle opportunité de mettre fin au conflit entre Israël et le Hezbollah. Le terme est de l'émissaire américain arrivé à Beyrouth ce mardi pour une visite très attendue. Amos Hochstein, censé peaufiner avec le mouvement chiite les conditions d'une paix possible, les parties doivent décider de mettre un terme à ce conflit. C'est désormais à portée de main, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, les combats continuent dans les territoires palestiniens. 410 jours de guerre et 3 nouveaux Palestiniens tués dans une opération israélienne aujourd'hui en Cisjordanie dans les environs de Jenin. À la veille de la Journée internationale des droits de l'enfant, communication de l'UNICEF sur le Liban en guerre. Plus de 200 enfants ont été tués en un peu plus de 2 mois de conflit au pays du Cèdre, soit plus de 3 par jour, déclare le porte-parole de l'organisation ce midi à Genève. En Inde, le gouvernement va déployer 5000 paramilitaires supplémentaires dans l'état de Manipur, près de la Birmanie. La région est déchirée par un conflit ethnique depuis 18 mois et New Delhi n'a toujours pas réussi à imposer une trêve entre la communauté majoritaire, les Métis, et les Kukis minoritaires. Les précisions en Inde d'Emmanuel Derville.
La guerre qui oppose les Métis hindous aux Kukis de confession chrétienne avait connu une accalmie l'été dernier. Les affrontements ont repris en septembre à coups de drones explosifs et de roquettes, une première depuis le début du conflit et le signe que la situation s'envenime. Les deux groupes se battent pour l'accès aux terres et aux emplois dans la fonction publique depuis mai 2023. Le gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi ne parvient pas à ramener le calme. Il refuse de démettre le chef de l'État de Manipur, issu du parti de Modi, alors que les Kukis accusent ce dernier de favoriser les Métis. Les paramilitaires indiens et la police sont pris pour cible par les Kukis qui leur reprochent de se battre aux côtés des Métis. Difficile dans ces conditions pour le pouvoir central de jouer les médiateurs, les Kukis demandent donc la création d'un territoire semi-autonome pour assurer leur sécurité. Le conflit a fait plus de 250 morts et 60 000 déplacés. New Delhi, Emmanuel Derville, Radio Vatican.
Un nombre record de feux agricoles recensés hier en Inde. New Delhi, la capitale, subit en effet un grave et sérieux épisode de pollution atmosphérique, 60 fois supérieur aux normes recommandées. Aucune mesure gouvernementale n'a été prise pour le moment. En France, les agriculteurs expriment leur mécontentement envers le projet d'accord de libre-échange entre l'UE et les pays membres du Mercosur, que sont le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. La France va donc lancer un débat au Parlement cette semaine et avertit la Commission européenne ce matin qu'elle poursuivra le bras de fer sur le sujet. Hier, les agriculteurs français ont été rejoints par des collègues allemands pour bloquer notamment le pont de l'Europe qui relie la ville de Strasbourg et l'Allemagne, tout un symbole. Marie-Christine Bonzon.
Ce sont des centaines de tracteurs français et allemands qui ont bloqué hier le pont de l'Europe, un lieu emblématique où les représentants de syndicats agricoles français et allemands se sont donné l'accolade en solidarité contre un projet de traité qu'ils dénoncent comme une distorsion de concurrence, en particulier dans les secteurs de la viande bovine et du vin. Selon eux, le projet d'accord, qui est en négociation depuis plus de 20 ans, créerait des conditions déloyales parce que les denrées produites en Amérique du Sud ne répondent pas aux normes environnementales, sociales et sanitaires en vigueur en Europe. Les agriculteurs français ont le soutien de COPACOGECA, l'Organisation européenne des syndicats majoritaires, qui appelle l'Union européenne à revoir ce projet d'accord de libre-échange. Les agriculteurs français ont aussi le soutien de leur président. Emmanuel Macron, qui est en tournée en Amérique latine en ce moment, a en effet déclaré dimanche que Paris ne signera pas le projet d'accord en l'état. M. Macron essaye de mobiliser l'Allemagne et d'autres pays de l'UE, puisque selon les règles européennes, la France pourrait bloquer un traité négocié par Bruxelles, à condition qu'elle ait l'appui d'au moins 3 autres pays membres de l'UE. Hier soir, c'est l'Italie de Giorgia Meloni qui a emboîté le pas à la France en déclarant qu'elle ne signerait pas le projet de traité controversé avec Mercosur. Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.
Urgence nationale décrétée hier en Équateur par le gouvernement. Le manque d'eau, la sécheresse et les incendies de forêts concentrés dans le sud du pays, où plus de 10 000 hectares ont brûlé au mois de novembre, l'y ont contraint. Ainsi s'achève ce journal. L'actualité du pape, de l'Église et du monde est à retrouver ce soir à 18h. Vous serez en compagnie d'Olivier Bonnel. Elle se prolonge toute la journée sur vaticannews.va. Belle soirée.